Figaro Radio.
Le Buzz TV.
Damien Canivez et Cécile Brulot.
Figaro Radio.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau un homme qui a décidé de traverser la Manche pour émerveiller les tympans du public français. Son visage, vous ne le connaissiez pas il y a encore 2 mois, mais depuis sa première apparition dans The Voice le 1er avril dernier, il a prouvé à des millions de Français que sa présence dans cette émission n'était pas une plaisanterie. Bien au contraire, il a fait partie des demi-finalistes de la version britannique de l'émission et dans un peu plus de 24 heures, il tentera de décrocher son ticket pour la grande finale. Mais cette fois-ci, on est en France, on est à Paris. Bonjour Jérémy Levif.
Bonjour Damien.
Bienvenue sur le plateau du Buzz TV. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, TF1 qui va retransmettre donc en direct la demi-finale du concours The Voice. Vous faites partie de ces candidats qui vont donc tenter de décrocher leur ticket pour la grande finale. Dans quel état d'esprit êtes-vous déjà ?
Bah franchement, je suis excité à l'idée de chanter en direct sur la scène de The Voice. Franchement, j'ai jamais fait ça, chanter en live devant des millions de téléspectateurs. Donc il y a un peu d'excitation, un peu de trac forcément.
Vous n'avez pas les mains moites, vous commencez pas à avoir
les petits premiers signes de stress. Je transpire vachement.
Ça commence à se voir quand même. Heureusement, c'est pas dans le champ des caméras, je vous assure.
Non, mais ça, en vrai, c'est un cadeau d'être arrivé jusque-là. Donc j'espère continuer à me faire plaisir. Pour l'instant, j'ai réussi à faire ça sur scène. Donc je vais essayer de faire ça et puis essayer de convaincre les téléspectateurs et téléspectatrices français. Pour aller jusqu'en finale, j'espère.
C'est vrai que l'originalité de cette demi-finale, c'est qu'elle est en direct. Qu'est-ce que ça change concrètement pour vous ? Il y a vraiment quelque chose de différent dans la façon d'appréhender cette échéance ?
Dans un sens, oui, mais même si les émissions avant sont filmées, même en quelque sorte dans le cadre du direct, oui. On n'a pas le droit à l'erreur, donc là, ça sera la même chose. Il y a quand même les caméras, on ne peut pas se louper. Donc même les émissions avant ça, il fallait que ça soit... 100%, ont donné le maximum quand même. Donc là, c'est juste savoir que les gens regardent en live. Mmh. Ça rajoute un peu de peur, mais en vrai, les conditions seront les mêmes. Donc je suis prêt.
Quand vous avez foulé pour la première fois le plateau de cette 12e saison de The Voice, est-ce que vous imaginiez aller si loin dans l'aventure ou bien vous étiez fixé un objectif ? C'était la finale, très clairement, vous vouliez aller en finale. Vous vous disiez, si je passe les auditions à l'aveugle, déjà, ce sera bien.
Ouais, en vrai, c'était... Il y avait une approche un peu différente parce que forcément, j'avais déjà fait The Voice au Royaume-Uni.
Oui.
Et j'avais quand même une exigence par rapport à moi-même. Et je savais que quand les gens allaient visionner cette saison, ils allaient se dire, il a fait The Voice avant, forcément, il va réussir. Alors que ça ne veut rien dire du tout. J'aurais pu complètement me viander directement aux auditions à l'aveugle. Donc j'avais quand même cette pression que je me mettais à moi-même. À The Voice, au Royaume-Uni, j'avais les 4 coachs. Ouais. Je me suis dit, si j'ai qu'un coach, déjà, c'est cool, c'est trop bien. Mais il y a quand même, je me suis dit, ça serait bien d'avoir aussi convaincre
les 4. Je suis rétrogradé si vous n'avez qu'un coach, alors que vous aviez les 4 au Royaume-Uni.
En gros, c'est comme si je rejouais un peu un titre que j'avais, que j'avais gagné à The Voice au Royaume-Uni. Donc, j'avais un peu de crainte quand même de ne pas faire aussi bien qu'en Grande-Bretagne.
En Grande-Bretagne, vous étiez dans l'équipe de Will.i.am. On va en parler dans quelques instants. Aujourd'hui, en France, vous êtes dans l'équipe de Vianney. C'est un peu notre Will.i.am français. On va en parler dans quelques instants. Mais tout d'abord, on découvre les news médias avec Cécile Brulot.
Bonjour Jérémy.
Allez, on commence les news médias avec une plongée dans la culture coréenne.
Oui, messieurs, vous est-il déjà arrivé d'avoir envie de manger les plats de vos fictions ?
Évidemment.
Alors, Thibaut Villanova, sous l'alias de GastronoGeek, s'associe à la journaliste Marie Palot pour publier le 7 juin prochain aux éditions Hachette, K-drama, qui donc c'est un livre de cuisine qui propose les meilleures recettes des séries et films coréens. Donc de Squid Game à Parasite, 30 plats ont été pensés pour vous replonger dans la culture de vos univers préférés. Il sera possible de retrouver par exemple le dalgona, donc c'est la fine couche de caramel qu'on voyait dans Squid Game, avec laquelle on doit couper une forme avec l'aiguille.
Ça a l'air bon.
Par contre, je ne voudrais pas faire ce jeu-là, par contre.
Non. Et sinon, il restera aussi, parmi les autres recettes, la soupe de lendemain de cuite de la série Hometown Cha-Cha-Cha.
Ah oui, moi je prends le biscuit, moi personnellement, franchement c'est...
Ouais, moi aussi.
Vous aussi Mais là c'est vrai qu'on parle de fiction quelque part, est-ce que vous aimeriez, vous, pourquoi pas aussi, vous lancer dans cet univers-là ? On sait que chanter c'est aussi interpréter une chanson, il y a une partie d'acting là-dedans. Est-ce que vous aimeriez bien avoir un rôle dans une série, dans un téléfilm ?
Bah pourquoi pas, ouais.
Vous n'y avez pas spécialement pensé, c'est pas dans votre carrière.
Mais c'est vrai que même en tant que prof, des fois on doit un peu faire des jeux de rôle ou quoi que ce soit, ou faire un peu l'idiot pour amuser les gens. Ouais, ça comme je suis pas fermé à ça, donc pourquoi pas, s'il y a des gens qui regardent, qui veulent,
ouais, écoutez, voilà,
qui hein, veulent pour un film, je suis là.
S'il y a besoin d'un stagiaire, on peut communiquer votre adresse mail à la fin de cette émission, pas de problème. On poursuit ces infomédias avec les menaces de Cyril Hanouna.
Oui, le magazine d'investigation présenté par Tristan Ouellec sur France 2 prépare actuellement un numéro dédié au trublion du PAF. Donc d'abord coopératif, l'animateur de Touche pas à mon poste semble bien plus réticent aujourd'hui à l'idée qu'un complément d'enquête lui soit dédié. Par exemple, je le cite, l'animateur a dit « Ils vont le faire et ce sera la fin de cette émission. Je vais mettre mon nez dedans et vous savez que quand je mets mon nez dedans, quelque part, je fais tout péter. »
Ah oui, d'accord.
Bon, ambiance. Voilà.
Belle ambiance, effectivement. Alors c'est vrai que Jérémy, vous faites beaucoup de promotions, vous aussi, sur les réseaux sociaux, ouais, dans les émissions. Est-ce qu'il vous arrive aussi de vous rendre sur des plateaux de télévision? Alors là, on parle de Touche pas à mon poste, qui est une émission dans laquelle des personnalités télé vont parfois faire leur promotion. Est-ce que vous allez aussi régulièrement dans des émissions de télévision? Même en Écosse, vous avez fait la promotion de The Voice là-bas.
Non, pas vraiment, non. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois que je suis sur un plateau télé comme
c'est
ça.
C'est vrai?
Donc, c'est un
honneur. On est votre première fois, quoi.
Ouais, en vrai, ouais, bah, c'est ça.
On n'est pas possible.
C'est agréable, donc merci de.
Ah, bah, c'est un honneur. Ah, franchement, on est content. Ah, vous avez refait notre journée. On va passer un bon week-end grâce à vous. Allez, on termine ces news médias avec le chiffre du jour et vous avez choisi le 10.
Oui, un nombre qui célèbre les 10 ans de diffusion de la Formule 1 sur Canal+. Les adeptes de course automobile s'en souviennent peut-être comme si c'était hier. Le 14 février 2013, la chaîne cryptée annonçait l'acquisition des droits de diffusion de la Formule 1. Depuis 2013 jusqu'à fin 2022, cela représente plus de 201 grands prix, 10 000 interviews, près de 2000 heures de direct. L'équipe composée entre autres de Margot Laffitte, Julien Febbreau, Thomas Sénécal ou encore Laurent Dupin vont célébrer ce 10e anniversaire à Monaco ce week-end.
Jérémy, vous êtes quel genre de téléspectateur? Vous regardez la télévision chez vous?
En vrai, j'ai pas trop le temps.
C'est vrai.
Vu que je suis jeune papa,
ouais.
Quand je rentre du travail, je passe du temps avec mon fils. Donc en fait, je regarde la télé, mais c'est plus des émissions
En replay
Ouais, sur Netflix ou des fois, c'est juste des émissions pour enfants.
Donc, vous regardez The Voice France quand même avant d'y participer?
Oui, plus sur YouTube par contre.
D'accord. Ouais.
Mais ça, j'avoue que quand j'ai un peu de temps pour moi, je fais principalement de la musique.
Ouais.
Parce que c'est vrai que j'ai pas trop de temps maintenant. Donc,
Alors déjà, j'aimerais qu'on vous revienne un peu sur votre arrivée dans ce concours. Lors de votre audition à l'aveugle, tous les coachs se sont retournés. C'est Amel Bent hein, qui a été la première à buzzer. Ouais. Au moment où vous voyez son fauteuil qui se retourne, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans votre tête?
Bah, déjà, ça m'a rassuré parce que je me souviens, ça s'est pas passé tout de suite. Donc j'ai commencé à chanter. Je me suis dit, ah, il y a pas de. Pour l'instant, il n'y a personne qui réagit. En plus, on voit même pas leur visage. Donc on ne sait pas si ça se passe bien ou ce qu'ils pensent. Donc quand Amel s'est retournée, au moins, on sait déjà que.
Que vous gagnez votre
voilà,
ticket pour
continuer. Et en plus, j'aime bien Amel. C'est une grande chanteuse. Donc je me suis dit, ben, s'il n'y a que elle, je suis déjà content. Même si j'attendais Vianney, moi j'étais là pour.
Ah, vous étiez là pour Vianney, quoi.
Sérieusement. Sérieusement.
Alors que c'était le dernier à se retourner quand même. Hein.
Il m'a mis un peu le suspense là. Mais ouais, non, mais j'attendais en quelque sorte. Je voulais vraiment intégrer son équipe parce que je suis un grand fan de sa musique, mais aussi de sa personne aussi. Donc.
Et alors, quel coach est-il avec vous? Comment il est? Parce que ça fait déjà plusieurs étapes que vous traversez ensemble.
Ben, en fait, comme je l'imaginais, en fait, vraiment quelqu'un de. Super humain, à l'écoute. Il nous donne quand même la place de décider ce qu'on veut faire avec nos prestations, etc. Mais il est aussi très pointueux, donc il va nous dire ça, je pense que tu ne devrais pas faire. Il va voir les musiciens pour vraiment travailler l'arrangement. Donc il veut vraiment qu'on fasse la meilleure prestation possible. Et ça, franchement, c'est touchant qu'il soit autant investi dans ses talents. Et pour qu'on fasse la meilleure aventure possible.
Même hors caméra, il est très présent auprès de vous, parce que c'est vrai qu'on voit vous accompagner devant les caméras où il vous conseille, mais est-ce que même hors caméra, par exemple, vous pouvez l'appeler à 23h parce que vous avez un doute sur une note, par exemple?
Non, parce que... Bah après, je sais aussi que lui aussi, il a une famille, donc je ne vais pas le déranger. Mais on a quand même un petit groupe sur Instagram, sur les réseaux, où on se soutient avec la team Vianney, justement. Et des fois, il nous envoie des petits messages, surtout quand il y en a qui ont un peu de doute ou on a eu des commentaires parfois pas forcément très plaisants.
Ça vous touche, ça, les commentaires qui sont négatifs?
Non, parce qu'il y en aura toujours. Ouais. Même les plus grands, ils ont quand même des gens qui n'aiment pas leur univers. Donc, en fait, dans un sens, ça nous aide à garder. Enfin, moi, ça m'aide à garder les pieds sur terre. Il y aura toujours des gens qui vont pas aimer que j'ai une casquette, que que j'habite en Écosse ou que je chante comme ça. Enfin, c'est la vie. Hein.
Entre répétition, coaching, comment ça se passe?
Bah, beaucoup de repos aussi. J'essaie de me reposer parce qu'il y a beaucoup de répétitions hors caméra. Donc, j'essaie aussi de prévisualiser aussi ce qui va se passer, la scène, etc. Pour que quand j'arrive sur place, je ne sois pas surpris. Ah ouais, c'est comme ça, je sois porté. Ouais. Donc, je me prépare aussi mentalement parce que c'est important avant de chanter, de se mettre dans le bain.
Et les répétitions, ça représente à peu près combien d'heures, par exemple, par jour ? Vous devez travailler combien d'heures aujourd'hui avant la finale ?
On va dire 4 heures au moins.
Ah oui.
Parce qu'il y a plusieurs... Il y a plusieurs étapes de préparation. Donc, il y a la préparation vocale, l'échauffement vocal d'abord. Ensuite, on décortique un peu le morceau. On travaille vraiment la technique vocale avec Damien Silver, mon coach vocal dans cette aventure. Et après, il y a le coaching scénique. Donc, comment on va bouger sur scène. Enfin, il y a plein de
Il y a beaucoup de paramètres.
Et après, on va sur scène. Il faut tout refaire. Et il y a tout le monde qui est présent. Donc, le chorégraphe Aziz qui va nous rappeler. Attends, il faut que tu sois là à ce moment-là. Damien Silver, attention, cette note-là, il faut qu'elle soit comme ça. Donc, et Vianney aussi, donc il faut prendre en compte plein d'avis et de retours pour pouvoir faire la meilleure prestation.
Vous avez parlé de beaucoup de choses, mais vous n'avez pas parlé du plus important, qui est la chanson que vous
c'est
allez
vrai.
Interpréter ce samedi. Alors, ça va être quoi ?
Ah, je vais tout vous dire.
Ah ben justement, j'ai vraiment cru. Hein. Là, vous m'avez mis la carotte
j'ai
devant
pas le droit. Je pense que je peux dire que c'est une chanson en français.
Ah, c'est une chanson en français.
Le droit. Ouais. Je regarde parce que...
Oui, il y a l'attaché de presse qui est pas loin. Vous avez bien raison.
Elle est comme ça.
D'ailleurs, dans le chronologue, vous aviez même le droit de dire ce que vous allez à peu près nous dire dans cette chanson. Quel est le message que vous voulez faire passer peut-être.
Ouais, bah, jusqu'à présent, j'ai chanté des chansons qui étaient pas mal émotionnellement chargées. Donc surtout Pas toi, je me souviens, au Cross Battle, qui était quand même une chanson très forte. Et assez lente aussi. Donc là, je voulais faire quand même un morceau où je montre que... Bah, je peux aussi faire des choses où les gens peuvent s'ambiancer, peuvent chanter avec moi, etc. Et c'est une chanson aussi où j'ai envie de peut-être mener un peu le jeu, ou peut-être prendre un instrument, donc je ne vais pas dire lequel. Ouais. Ça se trouve, c'est... Voilà.
Oui, ça peut être la flûte traversière.
Ça peut être la flûte, voilà.
On n'avait pas... Voilà.
Mais juste pour prendre une autre approche, parce que je suis aussi un musicien aussi à la base, d'habitude je m'accompagne et tout. Et puis c'est important pour moi aussi, vu que j'habite en Écosse, de montrer que... la France, c'est le pays d'où je viens, qui m'est cher aussi. Donc, je vais montrer aux Français que je suis encore attaché à ce pays-là et je veux défendre aussi le patrimoine musical qu'on a.
Mais hormis votre audition à l'aveugle qui a été en anglais, vous avez chanté que des titres en français. Dans quelle langue vous préférez chanter ?
En vrai, d'habitude, je chante pas mal en anglais vu que mon public est pas mal écossais, enfin, quand je me représente en tout cas. Mais après, j'adore les deux langues et c'est un réel plaisir de pouvoir vraiment travailler le patrimoine français, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que j'ai pas forcément la chance de chanter en français tout le temps à un public français. Donc ça, c'était vraiment mon objectif en faisant The Voice France, c'est d'aller à la rencontre des gens ici pour pouvoir créer justement... J'espère un public, un élan derrière moi ici en France.
Alors on aura un panel assez éclectique dans cette demi-finale. Est-ce qu'il y a des candidats que vous redoutez plus que d'autres ?
Tous.
Ah oui.
Mais redouter et en même temps, je les admire énormément. Franchement,
il y a beaucoup de respect entre vous. On sent pas cet esprit de compétition une compétition, The Voice.
Surtout, moi, je suis pas du tout. Moi, je suis plus en compétition avec moi-même.
Ah oui, vous voulez vous prouver certaines choses.
Ouais. Là, on a fait une super journée avec l'association des Petits Princes. C'était vraiment un cadeau pour nous tous. Et je pense que ça s'est vu, ça s'est ressenti pour les enfants, l'atmosphère et l'entente qu'on a avec les autres, dans les demi-finalistes. On se respecte, on s'admire et on se soutient. Là, c'est vraiment plus... J'ai l'impression qu'en fait, demain, c'est une finale pour nous tous. Mmh. Et il y en a qui auront la chance d'en faire une autre après, mais non, enfin...
Vous avez tous déjà quelque part un peu gagné, c'est ça que vous
voulez dire ? Ouais, non, exactement, ouais.
Il y a aussi cette notion de presse avec les médias et cette idée de grand favori. On a l'impression que cette promotion, pas du tout, mais est-ce que vous, entre vous, en avez déjà discuté, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un favori parmi vous ?
C'est possible, oui. Enfin, on n'en discute pas trop, mais moi, je pense qu'une des personnes, franchement, qui se détache... par son image, mais aussi, elle surprend tout le monde, c'est, je dirais, Aurélien. Enfin, personne
du
n'attendait
coup,
une voix comme lui. Ouais. À chaque fois que je l'entends chanter, j'ai des frissons. Que ce soit à la télé, et en vrai, c'est décuplé, c'est incroyable. Et c'est une personne, vraiment, c'est un amour aussi. Donc, si lui, il arrivait jusqu'au bout, je lui souhaite, je serais quand même content. Donc, pour moi, lui, c'est vraiment une personne, il faut aller le voir, il faut aller l'écouter. C'est quelqu'un... il vous touchera.
C'est très sport de votre part, en tout cas, de dire ce que vous dites.
Mmh. Moi, je lui ai dit. Je lui ai dit à chaque fois que je l'entends, j'ai la chair de poule, franchement.
Et est-ce que vos élèves ont la chair de poule aussi quand ils vous entendent chanter? Parce qu'on rappelle que vous êtes prof de français et d'allemand en Écosse. Quel regard vos élèves portent-ils sur votre parcours?
C'est très drôle parce que quand ils me voient, il y a une fille qui m'a dit, une élève à moi qui m'a dit, j'ai l'impression que vous allez pleurer à chaque fois que vous chantez. Donc en fait, ils me voient dans une autre lumière, peut-être un peu plus sensible parce que d'habitude, ben.
Mais quand vous enseignez l'allemand, vous ne pleurez pas.
Non. Plus strict. Non, plus
oui, c'est un peu plus strict.
Mais donc c'est vrai, c'est sympa pour eux de voir aussi me voir dans cet univers où je parle que français, parce que forcément, je leur enseigne le français ou l'allemand. Mais ils ne me voient pas interagir forcément avec des vrais Français. Donc c'est intéressant pour eux de voir, entendre des musiques qu'ils ne connaissent pas. Les battles, par exemple, je me souviens, il y avait une fille qui m'a dit « J'ai l'impression que vous criez dessus. » Parce qu'elle ne comprenait pas, elle comprenait pas l'échange ou le message de la chanson. Ouais. Donc pour elle sentait qu'il y avait
qu'il y avait une tension.
Ouais. Alors qu'en vrai, on s'entendait super bien avec Jessica, que j'embrasse d'ailleurs, c'est le regard.
Mais est-ce que vos rapports changent avec vos élèves depuis que vous avez été à la fois connue en Angleterre et connue aussi en France maintenant dans The Voice?
Ouais, en quelque sorte, ouais, parce que c'est vrai que les élèves, même avant d'avoir la chance de travailler avec eux, donc il y a des classes avec qui je ne travaille pas, quand ils me voient, ils me disent « Oh, bonjour, monsieur Levif », etc. Donc on sent que ils m'aiment bien un peu d'avance, donc c'est sympa.
Vous êtes un peu la star de l'école, quoi. quand même.
Un petit peu.
Ils vous demandent des photos ou pas, les élèves?
Non.
Après, ils sont jeunes, je crois. Ils ont entre 7 et 17 ans.
Bon, 17 voilà, ans, ouais. Donc c'est très vaste. Donc c'est vrai, mais après, au cours de l'année, ils oublient. Ils oublient, et des fois, je dois quand même les rappeler, attention, il faut que tu écoutes et tout.
Mais c'est plus facile d'avoir de l'autorité quand on passe à la télévision, non? On vous écoute un peu plus facilement ou pas? Vous sentez que vous arrivez plus à avoir la main sur vos élèves grâce à votre présence à la télévision?
Ouais, un peu.
Un petit peu,
ça joue, ça joue.
Ça joue quand même.
Pas tout le temps.
Dans les rapports. Alors c'est vrai que vous avez participé, comme on l'a rappelé tout à l'heure, à la version britannique de The Voice, et vous avez été éliminé en demi-finale. Alors évidemment, on ne va pas faire de parallèle parce qu'on ne veut pas vous porter l'œil. Mais est-ce que vous avez tiré des leçons de cette première expérience?
Mais je pense plus croire en moi, on va dire, en ce que je peux offrir aux gens.
C'était ça l'erreur, c'était que vous n'avez pas suffisamment cru en vous lors de la demi-finale à
Zones. Non, parce qu'en fait, c'est pas forcément une question de. En fait, à cette époque-là, je me demandais plus qu'est-ce que je fais là. Dans un sens, il y avait toujours un peu de doute où je me remettais en question. Mais après, quand je chante, finalement, enfin, je suis juste là pour chanter et m'amuser, donc en fait, je réfléchis pas trop. Mais je me souviens, Will.i.am me disait. T'as quelque chose à offrir quand tu chantes, les gens. Enfin, je pense que tu peux guérir certaines personnes. Ça ferait du bien au monde d'avoir un chanteur comme toi. Donc ça m'a touché. Et du coup, je m'étais jamais dit que je pouvais avoir un effet comme ça sur certaines personnes.
Lors des auditions à l'aveugle, vous avez même dit que votre voix était comme un instrument.
Ouais, c'est vrai. Donc c'est vrai que c'est touchant et ça donne, venant de stars internationales comme ça, ça surprend et ça donne vraiment un élan. Une petite confiance et tout.
Mais alors, comment vous étiez retrouvée dans cette version britannique, plutôt que française d'abord?
Oui, en fait, c'est drôle parce que je faisais de la musique vraiment depuis 2018, où j'ai commencé à faire beaucoup de concerts en Écosse. Et je mettais beaucoup de vidéos sur Instagram. Donc, comme quoi, les réseaux jouent beaucoup. Il faut continuer si vous faites ça. Et The Voice au Royaume-Uni a vu une vidéo. Je crois que c'était une vidéo d'une reprise de John Legend. D'ailleurs, que lui-même avait commenté John Legend. Donc, moi, c'était la folie. Et du coup, The Voice au Royaume-Uni m'a contacté et m'a dit « On a vu cette vidéo, est-ce que tu veux faire les castings ?» Et c'était le début de la pandémie, on ne pouvait plus jouer en live, donc je me suis dit, ça ne coûte rien. Une semaine après, The Voice France me contacte pour une autre vidéo. Je me suis dit, c'est bizarre, là, il y a un signe que les deux émissions...
Ils se sont contactés, les deux,
Alors que j'aurais jamais postulé, envoyé ma candidature.
Pourquoi?
Pour moi, je n'avais pas forcément le profil télé. Intéressant, je pensais que ma vie n'est pas forcément intéressante.
Oui, parce que c'est vrai que vous avez raison de réfléchir comme ça, parce que c'est vrai qu'au-delà de la voix, il faut aussi avoir une histoire à raconter. On se rend compte que les candidats ont beaucoup
Parce que c'est une...
Mais du fait que vous habitez en Écosse, c'est quelque part aussi une histoire. Et vous avez été recalé aussi, vous, de The Voice France. Ça, c'est une histoire incroyable aussi à raconter. Comment ça s'est passé? Pourquoi vous avez été recalé? Parce que vous avez postulé une première fois pour The Voice France, et Bruno Berberes, qui est donc le directeur de casting, vous a dit non, mais vous n'avez pas votre place dans l'aventure.
Ils ne l'ont pas dit comme ça, ils étaient un peu plus... ils avaient plus de tact.
En fait, heureusement.
En fait, on a fait une première audition en ligne, en fait, et ma caméra ne marchait pas. J'avais des choix de chansons peut-être qui n'étaient pas forcément en valeur. Je n'avais pas trop le concept de mettre ma voix en valeur. Et ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, bah merci, c'était cool, mais on n'est pas forcément intéressé. Ouais. Donc j'ai fait, je m'y attendais, j'avais pas. Franchement, je me disais, on va tester, mais je savais que ça n'allait pas marcher. Et à ma grande surprise, The Voice au Royaume-Uni, ça continue de casting en casting. Et après, on était aux auditions à l'aveugle. Et là, toujours, je me posais des questions. Mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi et tout? Et après, j'ai intégré l'émission. Et forcément, il y a eu un peu de presse en France. Et The Voice France a vu, c'est le gars à qui on avait dit non. On va le rappeler. Et puis, du coup, j'ai accepté. J'étais quand même flatté de pouvoir retenter mon aventure, mais ici, sur mon...
Mais puisque, en plus, en Bruno Barberès dit que vous êtes la plus grande humiliation de sa carrière. Comment vous êtes senti quand il vous a dit ça? Et vous parlez d'avoir souhaité reparticiper au Télécrochet en France.
Ouais.
Pourquoi, à tout prix, est-ce que vous n'êtes pas dit, une fois, c'était bien?
Ouais. En vrai, si j'avais eu le choix, parce que quand j'avais fait les deux castings en parallèle, si j'avais eu le choix, ou à un moment je devais choisir entre l'un et l'autre, j'aurais choisi la France.
D'accord.
Parce que je trouve que l'émission en France, est déjà, il y a beaucoup plus d'effervescence autour de cette émission. Ils font beaucoup, beaucoup pour leur talent autour. Et en plus, comme je l'ai dit, il y avait Vianney.
Vianney. C'est artistiquement amoureux de Vianney.
Non, mais sérieusement, c'est un truc de fou. Après, forcément, The Voice Royaume-Uni, c'était une expérience incroyable.
Oui, William, c'est pas ça non plus.
Oui,
non.
Oui, alors, mais non, c'était incroyable, il était adorable.
Mais moins présent que Vianney, c'est ce que vous avez déclaré aussi.
Je ne sais pas si c'est parce qu'il y avait les distances de la pandémie, etc. Mais c'est vrai que Vianney est quelqu'un de très investi. Même musicalement, il est vachement à l'écoute. Will.i.am, c'est parce que c'est une star internationale, il a peut-être moins le temps. Mais après, il m'a donné des conseils quand même qui restent précieux et que je garde toujours en moi. Donc,
C'est quoi la différence fondamentale entre The Voice France et The Voice Royaume-Uni? Est-ce qu'il y a une différence dans la mécanique? Est-ce qu'il y a une différence aussi en termes de moyens? Vous sentez qu'il y a une émission où vous sentez qu'il y a plus de moyens que d'autres?
Ouais, je pense que l'émission en France a plus de succès auprès des Français. L'émission britannique auprès des Britanniques. Oui, exactement. Il y a plus de moyens ici, beaucoup plus de choses qui sont faites hors coulisses, par exemple sur les réseaux sociaux ou la journée Parc Astérix avec les enfants de l'association Les Petits Princes. Enfin, ça, c'est un cadeau que j'avais. Enfin, c'était vraiment le plus beau cadeau de cette aventure et on n'avait pas eu cette chance-là, forcément.
Vous vous sentez plus encadré ici?
Ouais, et puis les deux émissions, franchement, une bienveillance, c'est ça qui règne dans ces deux émissions. C'est vraiment, ils sont vraiment là pour mettre les talents en valeur. Mais en France, c'est vraiment encore plus ça. C'est qu'il y a encore plus de lumière mise sur nous. Donc on est franchement reconnaissant de pouvoir vivre ça.
Alors Hugo, c'est votre fils, il a 16 mois, hein, c'est ça, aujourd'hui.
C'est ça.
On a coutume de dire qu'un enfant ne doit pas regarder les écrans avant 3 ans, mais est-ce qu'il suit quand même son père à la télévision un petit peu?
Je lui ai montré en replay, je lui ai montré les prestations. Il n'a pas l'air...
Il n'est pas emballé.
Je pense qu'il doit penser, tu dois mieux faire. Non, mais je vois que ça l'interpelle un peu, mais je ne pense pas qu'il réalise que c'est moi ou donc dans quelle situation je chante. Après, je chante beaucoup pour lui en vrai, donc ça le change pas forcément d'habitude.
Ouais, si vous lui chantez des berceuses tous les soirs, en fait, c'est le quotidien. Et votre femme, elle joue un rôle particulier ou pas en coulisses?
Énorme. Franchement, je ne serais pas là. Où j'aurais fait aucun The Voice si ce n'était pas pour ma femme.
Ah, c'est vrai, vous faites ça aussi pour votre
femme? Parce que ma femme, c'est elle qui m'a dit, pourquoi tu joues pas, tu ne te produis pas en plus spectacle et tout ça. Je fais, t'as raison, je vais essayer. C'est vraiment elle qui m'a poussé. D'ailleurs, elle regrette des fois parce que c'est trop. Des fois, vu que je suis pas mal sollicité, où j'ai beaucoup de dates, c'est vrai que ça enlève un peu de temps avec la famille, mais elle est... Et ensuite, tous les morceaux que je fais pour The Voice France, je lui chante avant, parce qu'elle est prof de musique.
Elle est prof de musique. Ah oui, donc...
Donc en fait, je lui dois...
Dans le même établissement que vous?
Non.
D'accord.
Mais pas loin. Mais donc ouais, non, je lui dois énormément. Donc je lui ai dit merci, mais elle le sait.
Donc elle est en France pour vous suivre?
Malheureusement, non.
Non.
Mais peut-être pour la finale, si j'y arrive, ça serait super. Ouais.
Vous parlez allemand, est-ce qu'on pourrait vous voir The Voice Allemagne?
Non,
c'est un troisième, jamais 203.
Il va apprendre l'italien, on va le voir à The Voice Italie. Hein.
Ouais. Non, mais on dit jamais 203 alors.
Ouais, non, mais je pense que ça sera mon dernier The Voice, surtout que c'était vraiment une expérience incroyable avec The Voice France, avec toute l'équipe de The Voice qui était extraordinaire. Il y a l'attaché de presse ici, Charlène, mais là on la voit pas, mais adorable. je préfère finir avec...
sur une belle note. Voilà. Et ben, en tout cas, nous, on vous souhaite bon courage et une bonne chance. On croise les doigts pour vous pour cette demi-finale de The Voice. Ce sera donc ce samedi 27 mai en prime time sur TF1. Merci d'avoir accepté notre invitation, Jérémy Levis. Et en attendant, on vous souhaite une excellente journée. Et donc, à bientôt pour un nouveau passé.